et l'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Petite parenthèse concernant l'APEC, vous êtes demandeur d'emploi. J'espère que vous le serez un jour à peine, hein, mais bon. Vous vous inscrivez au Pôle emploi, c'est l'aspect administratif, ça. Mais parallèlement, vous vous inscrivez sur l'APEC. C'est une grosse, grosse association. L'association, ce n'est pas 4 Pékin, hein, c'est Association nationale. Et sur le site de l'APEC, donc, vous allez avoir un tas d'offres d'emploi, de conseils et d'offres d'emploi cadres, bien évidemment. Donc, allez repérer sur le site de l'APEC, sur le site du Pôle emploi, sur un tas de sites, des offres d'emploi de votre secteur. Regardez comment, quel intitulé elle porte ces offres d'emploi de votre secteur. Cette analyse d'offres d'emploi va énormément aussi vous servir pour les domaines de compétences. Bien évidemment, parce que vous, vous pensez à afficher certaines compétences, parce que vous estimez que ce sont celles qu'attendent les entreprises, toujours dans le privé, hein, je suis, mais bon, les autres aussi. Et parfois, vous allez vous rendre compte que vous détenez des compétences que vous ne pensez pas proposer aux entreprises, et parfois vous en donnez, et on s'en fiche un peu de celles-là. Donc, le fait de regarder les offres d'emploi permet de faire un peu, de réactualiser et de voir un peu quelle est la tendance. Et bien sûr, ça, vous ne le ferez qu'à partir d'une, deux, trois, cinq, six offres. Hein. Il est évident que s'il y en a une qui dit ça, ne le prenez pas pour argent comptant. Mais s'il y en a six sur un profil de docteur en méca qui demande ça et ça et ça, à un moment donné, il va bien falloir s'interroger, quoi. Hein, et du coup, ça va peut-être vous permettre, voilà, de compléter ces domaines de compétences. Donc, vraiment, l'analyse des offres d'emploi, je crois que c'est un très, très bon exercice pour vous. Et puis, vous allez vous rendre compte aussi que ça va vous aider pour rédiger vos lettres de motivation lorsque vous prospecterez. Parce que d'une idée, d'une offre d'emploi donnée par telle boîte, vous pourrez faire une proposition à une autre boîte en vous inspirant de l'offre, etc. Donc, c'est tout un truc à faire. Donc voilà, pour le titre, je crois que je suis à peu près claire. Alors c'est vrai qu'on sait, lorsqu'il s'agit de docteurs, on sait reconnaître les titres des docteurs, hein, recherche R&D, machin, etc. Donc on sait qu'on a affaire à des docteurs. Maintenant, j'attaque les domaines de compétences. On ne va pas jouer au chat et à la souris. Hein. Je vais vous donner à peu près les compétences attendues. Alors, ben, bien sûr qu'il y a vos compétences scientifiques et techniques, bien évidemment. Hein. Celles-ci, elles sont à justifier. C'est pour ça que je vous renvoie sur les offres d'emploi, pour savoir, bon, ben, vous savez lesquelles proposer, mais peut-être qu'il y en aura d'autres à donner aussi. Ensuite, il y a des compétences en... je vous les donne en vrac, hein, après. En outils informatiques ou informatiques. Alors, je dis bien où, parce que moi, j'avais des docteurs. Certains docteurs se sont fait retoquer, mais gentiment, un peu taclés, pardon, en entretien. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis informatique. Ils étaient tombés sur des puristes qui leur ont dit « Vous ne pouvez marquer informatique que si vous faites de la programmation. Autrement, vous êtes des utilisateurs d'outils informatiques. » Voilà. Bon. Ok, voilà. Bon, donc, à vous de voir. Hein. Donc, c'est soit outils informatiques et vous déclinez ben, le pack office, hein, évitez moi Word, Excel, virgule, machin, hein, pack office, et puis vous me donnez les logiciels que vous connaissez, hein, base de données et autres, machin. Soit vous faites, vous savez faire de la programmation, et puis voilà, vous y allez allègrement. Et puis, si vous êtes en, si votre profil, c'est docteur informatique, et ben là, c'est dans... scientifique et technique, vous me donnez tout, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y a une compétence que vous oubliez de donner, et c'est là-dessus qu'on vous attend, c'est quand même la compétence en communication. Quand même, parce que vous êtes des scientifiques, certes, mais vous êtes des scientifiques qui communiquaient et qui devaient communiquer à l'écrit comme à l'oral. Alors, on ne va pas marquer communication orale, oral, vous me le barrez, et écrite, mais il va falloir faire allusion à ces deux points. Alors, comment justifier ? Justifier par rédaction de bilan d'activité, rédaction de notes de synthèse, rédaction d'articles, etc. D'accord ? Et là, entre parenthèses, vous me mettrez le nombre d'articles que vous avez rédigés, sans rentrer dans les détails, parce que vous m'aurez fait une annexe, hein, je l'ai dit tout à l'heure, au CV. La communication orale, ça va être animation de réunion, présentation de résultats, etc. Hein, à vous de voir aussi comment vous pouvez justifier de cette aisance, présentation à des congrès ou voilà.
Ouais. Est-ce que les enseignements, ça peut rentrer dans
alors, soit l'enseignement
ou une autre partie plutôt.
Moi, je suis pour ouvrir une rubrique enseignement.
Ouais.
Voilà. Hein, mais effectivement, soit ça rentre dans communication, soit j'ouvre un domaine de compétence qui est l'enseignement, et là, je vais mettre pédagogie. Je vais mettre l'enseignement, etc. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a fait de l'enseignement, c'est quelqu'un qui, au sein d'une équipe, d'accord, pourra avoir un peu ce profil un peu de pédagogue, d'accord, qui sait enseigner, sait expliquer a priori, d'accord, hein, voilà, hein, ça que je dis bien a priori. Donc à vous de voir hein, si vous le noyez ou si vous m'ouvrez une compétence. Donc la compétence communication est importante, ouais. Attention à la rubrique domaine de compétences et ensuite à la rubrique qui vient ensuite et qui est parcours professionnel. D'accord ? Domaine de compétences, ce sont vos savoir-faire. Donc je mets. Hein. Je mets, par exemple, effectivement, si j'ai fait de l'enseignement, je vais dire à qui, auprès de qui j'ai enseigné. Est-ce que ce sont des terminales ou est-ce que ce sont des L3 ? Ça, c'est important. Et je dis quelle matière. Hein, voilà. Mais je ne vais pas mettre tout un catalogue. Pourquoi ? Parce qu'après, dans parcours professionnel, je vais présenter cette activité-là. Et là, je vais détailler dans quel cadre et où. Par exemple, si j'ai enseigné à l'université, ça va être... je le présenterai. Mais ça, j'en parle tout à l'heure, hein, de la rubrique parcours professionnel. Là, vous avez à justifier. En fait, moi, ce CV par domaine de compétences... Pourquoi ? Parce que vous avez un titre, vous avez les domaines de compétences, ensuite, vous avez le parcours professionnel, ensuite, formation... Moi, je le mets en avant-dernière position. Et ensuite, renseignements complémentaires et non pas divers, comme je le vois encore. Pourquoi ? Pourquoi je ne mets pas formation en premier ? Parce que le titre, s'il est bien fichu, c'est ce que je disais tout à l'heure, renseigne sur le niveau de formation. D'accord ? Je sais à peu près dire si j'ai affaire à un technicien qui a un DUT ou à un ingénieur ou à un ingénieur docteur ou à un docteur tout court. Donc, si je mets la formation dessous, en quelques secondes, je vais rester sur la même info. Ça va faire doublon. Donc, je préfère fermer le CV avec formation. Ça, c'est une chose. Maintenant, s'il m'intéresse, ce CV, c'est pourquoi ? C'est parce que je vais afficher tous mes domaines de compétences et que la lecture qui est faite, c'est que ces domaines de compétences, je peux les avoir acquis à partir du domaine du parcours professionnel, à partir de la formation ou à partir des renseignements complémentaires. C'est-à-dire que si je mets dans les domaines de compétences une compétence en gestion, alors que je suis en biologie santé, je peux, parce que j'ai été, imaginons, trésorière d'une grosse association et que j'ai fait de la gestion et que je me suis formée en 2-3 jours à la gestion et compagnie. Donc du coup, j'ai tout à fait le droit de présenter cette compétence en gestion. Or, je suis en bio de santé.
Sur les, par exemple, les compétences comme ça, est-ce que, enfin, on met une catégorie administrative, par exemple, enfin, je dis, c'est ouais, peut-être pas joli,
et non, mais
le nom de catégorie, dire, par exemple, j'étais trésorier d'une association, et ensuite, dans le parcours, alors, je sais pas si c'est pas professionnel justement, mais c'est dans le parcours mettre qu'on a été ou qu'on est encore trésorier, président, je sais pas, d'une association. Avec la période.
Alors, dans le domaine de compétences, voilà. Je vais donner la compétence de gestion ou de communication. Parce que si, lorsque j'ai été dans cette association, j'ai organisé un congrès, hein, me suis occupée de la logistique, j'ai fait venir les congressistes, j'ai réservé, j'ai animé, j'ai machin, ça va venir soutenir la rubrique communication. D'accord ? Non seulement je vais faire allusion à la communication orale et écrite, mais je vais aussi parler de l'organisation de ce congrès. Je suis toujours dans les domaines de compétences. Ensuite, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais dans le parcours professionnel, je vais présenter cette activité-là ou dans les renseignements complémentaires. Pourquoi ? Parce que dans le parcours professionnel, il va y avoir quoi ? Pour ce qui vous concerne. Je ne veux pas l'aborder tout de suite, je veux rester dans les compétences. Hein. Donc, j'ai domaine scientifique et technique, communication, après, qu'est-ce que j'ai dit ? Outils informatiques. Il y a une compétence, là. Vous ne pourrez pas y échapper à celle-ci. À vos niveaux de formation, c'est l'encadrement et le management. D'accord ? Alors, il y a ceux qui l'ont pas. Ceux qui l'ont pas, ils ne vont pas l'inventer. pas de CV bidouillé, on est d'accord, hein, mais essayez quand même de chercher au plus profond de votre cerveau. Si vous n'avez pas un jour encadré un groupe, même des ados, parce que vous étiez, quand vous étiez plus jeune, vous animiez des colos, des machins, peut-être que sur le plan sportif, vous avez animé une équipe, etc. Ça ne veut pas dire que vous ferez de très bons managers, si vous l'avez fait sur le plan, parce que vous avez un BAFA, mais ça veut dire quand même que vous avez des aptitudes à encadrer, à dynamiser un groupe, d'accord ? Voilà, ça c'est bon, voilà. Hein. On peut parler, voilà, du coup, vous pouvez me dire, voilà, encadrer des groupes d'étudiants. Là, à vos niveaux, c'est vrai, bon, un docteur quand même, à un moment donné, si vous voulez, on va vous prendre sur ce que j'ai vu moi pendant 10 ans, hein, d'accord ? C'est que les docteurs recrutés dans le privé, on les mettait un peu sur la paillasse pendant 6 mois. 6 mois, 8 mois, 1 an, max. Mais on va pas payer un docteur ce prix-là pour le laisser à ce poste-là. Vous coûtez trop cher, et là je vous provoque en disant ça. Okay, d'accord. Ils partent du principe que vous coûtez trop cher. Donc, ça veut dire que, et là je vais ouvrir une parenthèse, qui est importante. Ça veut dire que l'entreprise a des vues sur vous et a des projets pour vous. Donc, elle va vous laisser à ce poste-là pour que vous familiarisez avec l'équipe, le machin, la boîte, etc. Hein, c'est votre mise en préparation. Mais ensuite, elle va peut-être vous donner, et certainement, la responsabilité, d'accord, d'équipe, de projet. Et c'est là que, si moi, aujourd'hui, je dois recruter un docteur, je vais m'assurer qu'il me présente toutes les compétences aujourd'hui dont j'aurai besoin pour dans 8 mois, quand je vais le faire basculer. Et ce n'est pas pour rien que je vous raconte ça. C'est que lorsque vous verrez des offres d'emploi qui ne font pas allusion à ce qui va se passer dans quelques mois, méfiez-vous. C'est là-dessus que se fait la sélection. C'est que je ne sélectionne que les candidats qui m'en ont dit beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'intention de vous laisser sur un poste de paillasse. Pourquoi ? Parce que j'ai des techniciens, des agents de maîtrise qui le font depuis 15 ans et beaucoup mieux que vous. On est d'accord ? Ils le font depuis 15 ans sans se poser de questions. Donc ce n'est pas là-dessus que je vais vous laisser. Lorsque je lance une offre d'emploi, je dis que j'ai besoin d'un docteur pour faire ça et ça et ça. Mais vous ne connaissez pas, parce qu'elles ne le disent pas forcément, quels sont ces projets pour vous dans 6 mois, dans un an. Donc proposer beaucoup plus. Donc du coup, noyer la compétence encadrement, management et la mixer avec de la pédagogie, pas tout à fait d'accord. Si vous l'avez, vous l'affichez. Si vous ne l'avez pas, et ben, que vous avez fait, vous avez été à terre et compagnie, et ben, parlez-moi un peu d'encadrement, même si vous avez eu des amphis de je ne sais combien d'étudiants. Parlez-moi un peu d'encadrement, de groupe, de TD, de machin, etc. quoi, hein, pour montrer que quand même, il y a une aptitude à. Ok ? Oui, parce que ça, c'est important. Je veux dire, à Bac plus 8, celui qui ne s'est pas encadré ou qui va rencontrer des problèmes à ce niveau-là, ça risque de poser des problèmes. Ensuite, il y a les langues. Les langues. Alors là, on n'est pas idiot. Quand on voit anglais scientifique sur un CV, ça veut dire je le lis, je l'écris, je ne le parle pas bien. Anglais scientifique, ça veut dire ça. D'accord ? Alors ensuite, il y a anglais perfectible. Et là, les langues dans ce CV Europass sont pas mal exprimées, justement. Je tiens à vous dire une chose, c'est qu'on voit de plus en plus d'offres d'emploi qui demandent des certifications. Je le disais, ce CV, c'est du déclaratif. Moi, je vois parfois dans des CV très bonne maîtrise de l'anglais. Vous avez intérêt de l'assumer, ça. Hein, parce que très bonne maîtrise de l'anglais, ça veut dire que la deuxième question, le jour de l'entretien, elle est en anglais. Hein. Maîtrise, c'est autre chose. Vous connaissez le projet Voltaire ? Vous avez entendu parler ? C'est une certification de son niveau d'orthographe. Vous savez que c'est un réel problème, c'est que l'orthographe, hein, il y a des profils qui sont encore plus touchés que d'autres. Lettre de motivation et CV, moi j'ai encore des personnes qui se demandent pourquoi on ne leur a jamais répondu. Ce n'est pas du tout lié à la compétence, hein, c'est les fautes qu'on a lues dans la lettre de motivation, dans le CV, qui ont tout gâché. Hein. Il est évident qu'à ce niveau-là, on ne va pas recruter quelqu'un qui fait des fautes, c'est pas permis. Alors, projet Voltaire, c'est quoi ? Juste en 2 secondes, tapez projet Voltaire sur Google aussi, vous verrez. C'est un positionnement. Et à partir du positionnement, donc, on propose des exercices. Moi, j'enseigne en GE2I là, à l'IUT à Montpellier. Et on a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Sur le niveau d'orthographe des DUT. Hein, mais bon, je les ai ici en master et j'ai des docteurs aussi. Hein, c'est une catastrophe. Hein. Et j'ai même des maîtres de conf ici hein, qui n'ont pas peur de projeter dans l'amphi du Monté des fautes grosses comme ça quand même. Hein, je le vois fréquemment. Donc attention, quoi, ça tue. Hein.
Oui. Quand vous dites orthographe, c'est tout, quoi, la grammaire, conjugaison, ah ben ouais, orthographe. C'est ouais, pas ouais. Juste.
C'est pas juste un ER à la place d'un E, hein, c'est tout. Quoi, hein. C'est la syntaxe. Attention.
Il y a aussi le style ou pas, le style littéraire, enfin, les tournures de phrases ou...
On ne va pas demander à des scientifiques de nous faire...
Non, mais on est d'accord, mais entre important. Faire des phrases simples et des phrases complexes, voilà. Par exemple...
Phrases claires, simples, percutantes, quoi. Hein, d'accord. C'est important, effectivement. Mais en tout cas, les fautes, c'est terrible. Alors, Projet Voltaire, nous, on l'a intégré à l'IUT dans l'enseignement. Et en fonction du temps que les étudiants passent sur le projet Voltaire, ils ont des points bonus ou des points malus sur leur moyenne. Mais il y a un positionnement, vous regarderez, hein, parce que là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, c'est un positionnement, il y a des exercices qui sont donnés, on va vous donner votre score. D'accord. Et à partir de là, on va vous donner un programme de mise à niveau si on estime qu'il y a une mise à niveau nécessaire. Donc, allez regarder.
Mais si je... Il faut une certification avec un score, c'est ça?
Alors, il faut vous inscrire pour justement avoir la certification. Alors, nous, l'université, parce que l'IUT, on est dessus, l'université a payé.
Hein, comment on fait
pour... si vous deviez avoir besoin de renseignements, à ce moment-là, vous m'écrivez. Hein, je vous donnerai mon mail tout à l'heure, ok? Mais déjà, allez chercher les renseignements et ceux qui vous manquent, je vous les donnerai, ok? Juste pour info, pour le projet Voltaire, Subdeco, il y a un mois, trois semaines de ça, en grande pompe, a annoncé à Montpellier hein, qu'ils étaient passés sur projet Voltaire pour leurs étudiants, alors que nous, on y est depuis trois ans quand même dessus. On ne l'a pas annoncé en grande pompe à l'UM2, mais c'est pour vous dire que même les écoles de commerce se mettent là-dessus, quoi. Et moi, j'ai vu deux offres d'emploi il n'y a pas très longtemps qui demandaient la certification, pas au niveau docteur, hein, on est d'accord, projet Voltaire. Donc, ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'on a un sérieux problème de niveau d'orthographe. Pardon? D'expression et d'orthographe, absolument. Hein. Donc, si je parlais de certification, je faisais allusion à l'anglais tout à l'heure pour les langues. Hein. Ça veut dire qu'il y a un niveau TOEIC, il y a un niveau TOEFL, on va peut-être vous le demander. Regardez à partir du CV Europass comment vous pouvez exprimer clairement votre niveau d'anglais, votre niveau des langues. Je parle de l'anglais, mais l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. Si vous avez tout ça, c'est jackpot, quoi. Vous n'avez rien à faire ici, à la limite. Hein. Si vous avez celui qui va arriver avec l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le turc et le chinois, alors lui, c'est... Il faut qu'il s'en aille.
Ouais. Est-ce que dans justification, s'il n'y a pas de score comme ça, le TOEIC, TOEFL, mais par exemple des séjours à l'étranger...
Absolument, dans le cas... ça vient soutenir un niveau d'anglais ou d'espagnol, ouais. Absolument.
Parce qu'on n'a pas de preuves directes comme ouais, ça, mais dire bon, on a écrit des articles, on a fait des congrès internationaux... Et
ah,
on
les
a
articles,
des...
ça ne veut rien dire. Moi j'ai eu ouais. Des docteurs là, qui avaient fait 2-3 articles et qui parlaient très très mal. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils marquaient anglais scientifique. Ils le lisaient, ils l'écrivaient, mais ils étaient incapables de sortir... une phrase correctement. Alors, au niveau de l'anglais, parlons-en. On ne vous demande pas, ça c'est les collègues DRH et autres, de savoir parler un anglais parfait. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est dans ces équipes hein, où vous allez trouver plusieurs nationalités. Il s'agit qu'un Allemand, un Anglais, un Français, un gars du Moyen-Orient, etc., tout ce beau monde puisse se comprendre. C'est tout. C'est ce qu'on attend. Alors après, il va y avoir effectivement des entreprises qui vont avoir une exigence d'un anglais parfait. Coca-Cola, c'est ce qu'ils exigent, c'est évident. Vous ne pouvez pas postuler à un groupe, à un grand groupe comme Thales, Coca, L'Oréal, si vous n'avez pas un anglais correct. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner des généralités. Vous savez qu'à Montpellier, il y a quelques boîtes françaises où ça ne parle qu'en anglais. Et ils sont tous français. Pourquoi ? Parce que leurs clients sont allemands, américains et compagnie. Donc la règle, c'est on parle en anglais. À Montpellier. On a quoi ? L'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, hein, qui sont des langues... vous avez ces quatre-là. Le russe aussi, mais bon, là, j'ai cité quand même... Après, moi, ouais, pourquoi pas ? Vous courez après la place dans votre CV. Donc, si vous me présentez une langue, je vais faire un peu de provoque, parlée par 400 personnes, certains me mettent japonais en cours d'apprentissage. Pourquoi pas ? Hein, parce que vous êtes en train d'apprendre. À vous de voir si ça apporte une plus-value à votre CV ou pas. Si c'est un étalage d'informations qui ne fait rien avancer, ne le mettez pas. Si vous avez l'intention de postuler en Europe de l'Est, etc., à vous de voir si ça apporte quelque chose ou pas. Concernant donc l'anglais, effectivement, un niveau soutenu par des séjours dans des pays... anglais ou autre langue, c'est le bienvenu. Donc soit vous mettez entre parenthèses plusieurs séjours linguistiques, plusieurs séjours à l'étranger, machin, et après dans les renseignements complémentaires, vous m'en direz un peu plus. D'accord ? Après, quelle autre compétence j'ai oublié d'après vous ? C'est pas un test, hein, mais on a dit, sans note là, compétences scientifiques et techniques, outils informatiques, langue, communication... encadrement, management, après gestion de projet. Là aussi, c'est une compétence demandée par et attendue. Alors, gestion de projet, ça englobe quoi ? Vous irez regarder sur Internet, hein, ce qu'on y met là-dessous. Mais c'est le temps, c'est l'argent, c'est la veille scientifique, hein, savoir faire de la veille scientifique, ça vous le faites. C'est la gestion du temps donc, et gestion d'argent. Donc, vous gérez l'argent avec votre thèse. Hein. Vous avez un certain nombre de mois, d'années, pour faire votre thèse. Et votre thèse coûte tant, quoi. D'accord ? Donc, vous regarderez un peu ce que vous pouvez mettre derrière gestion de projet. Après, il peut y avoir d'autres compétences. Enseignement, on l'a dit tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi donc, des compétences en gestion, je le disais, parce que d'autres activités... pas forcément lié à votre projet, hein, celui lié à la thèse, mais parce que vous avez développé d'autres compétences. Okay ? Mais là, je vous ai donné quand même les bases et l'analyse des offres d'emploi vous permettra donc de regarder quelles sont les autres compétences que vous pouvez rajouter en fonction de vos spécificités.